On suit de très près un match de baseball entre les Red Sox de Boston et les Yankees. C'est 3-0 pour le moment pour les Red Sox. 3-0 donc en quatrième manche. Et tout à l'heure, on parlait avec le directeur de la Coupe Rogers, Eugène Lapierre, qui regardait lui-même le match entre Rebecca Marino, qui était présentement sur le court parce que ce sont les qualifications en fin de semaine. Donc aujourd'hui et demain et ensuite lundi, on entreprend le tableau principal. Rebecca Marino qui a perdu la première manche 3-6 contre Vera Labko, la Bélarusse. Et elle a gagné la deuxième manche 6-3 et elle mène la troisième 4-2. Alors voilà une bonne nouvelle pour la Canadienne Rebecca Marino. Et Eugène Lapierre qui nous confirmait tout à l'heure qu'Eugénie Bouchard, qui a rencontré la presse aujourd'hui, semblerait que c'était un point de presse quand même assez drabe, très laconique. Elle n'a pas dit grand-chose, Eugénie Bouchard, mais elle devrait jouer son match de premier tour parce qu'elle a obtenu un laissez-passer. Elle devrait jouer son match de premier tour. C'est soit mardi ou encore... mardi après-midi ou encore mardi soir contre Elise Mertens, la Belge, classée 14e joueuse. Et aussi, nouvelle concernant le toit rétractable, parce que les organisateurs de la Coupe Rogers aimeraient bien éventuellement munir le stade IGA d'un toit rétractable. Même aujourd'hui, les activités ont été interrompues quelques instants en raison de la pluie. On parle d'un projet de 70 millions de dollars. Monsieur Lapierre, il dit que le dossier avance très bien. On pourrait même arriver à une annonce quelque part à l'automne ou plus tard à l'automne. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. C'est maintenant le moment de parler de l'impact de Montréal qui poursuit sa route et sa course vers une place en série. Et ce soir, l'Impact qui accueille DC United au Stade Saputo. Pour en parler, on discute avec Vincent Destouches. Salut Vincent.
Salut Yannick.
Alors Vincent, oui, DC United, mais c'est aussi la visite de Wayne Rooney, grand joueur de soccer international, 253 buts en 559 matchs avec Manchester United. On a eu Zlatan Ibrahimovic quelque part au mois de mai. Là maintenant, Wayne Rooney, les amateurs sont vraiment comblés de pouvoir assister aux performances de joueurs de ce très haut calibre.
Exactement, comme on l'était d'avoir David Beckham, voir Didier Drogba et compagnie. Oui. Et tu sais, je suis content que tu le mets dans la même catégorie que Zlatan Ibrahimovic, parce que Wayne Rooney, j'ai l'impression, moi, c'est un joueur qui a toujours été sous-estimé. Mm. Il n'a pas le mérite qui lui revient, et pourtant, c'est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de la sélection anglaise. Il y a 2 ans, il était encore capitaine de l'Angleterre à l'Euro 2016, et on a l'impression qu'il est peut-être vieux, parce qu'on le voit depuis tellement longtemps, mais il n'est pas. Il a 32 ans. Pour moi, c'est jeune, en tout cas. Et il a marqué son premier but en championnat d'Angleterre. Il était âgé de seulement 16 ans. Mmh. Donc, il a toujours été dans le portrait. Il a toujours été très, très bon. Et il mérite, parce que c'est le cas, d'être dans la même catégorie des joueurs que Zlatan Ibrahimovic. Et j'espère que les gens sont emballés, sont excités, parce que c'est effectivement une chance de voir ce genre de joueur fouler la pelouse du Stade Saputo ce soir. En tout cas, moi, je suis très excité.
Bon, est-ce que ça peut jouer, ça, en quelque sorte, contre les joueurs de l'Impact, de jouer contre un gars comme Wayne Rooney, c'est-à-dire peut-être être au début du match, être impressionné, même si ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Mais est-ce que ça peut être un facteur négatif? J'imagine que Rémi Garde va en parler à ses joueurs, parce que l'Impact a beaucoup à perdre dans ce match-là ce soir.
Oui, je comprends ta question. C'est vrai que je comprends l'esprit. Après, j'espère que le mot impressionné ne s'applique pas. Pas à ce stade de la compétition. C'est des professionnels. Tu peux pas être sur le terrain et être transi en regardant un joueur de la trempe de Wayne Rooney. Tu peux avoir beaucoup de respect, ça d'accord. Tu peux lui accorder beaucoup d'attention, voire un peu trop d'attention. Et c'est ce qui arrive souvent, qu'il y ait 1, 2, voire 3 joueurs qui se commettent un peu plus pour défendre sur un gars du type de Wayne Rooney, comme c'est le cas d'ailleurs pour Nacho Piatti. Et ça laisse des espaces et des ouvertures pour les joueurs qui l'entourent. Et moi, je m'attends à ce que ce soit le cas à peu près tout le temps pour DC United. Et ça tombe bien, parce que c'est pas le seul bon joueur offensif. Donc il y a ceux qui évoluent autour de lui, qui bénéficient bénéficie de l'arrivée d'un Wayne Rooney. Mm-hmm. C'est pas juste un coup marketing. Je pense que sportivement, ça fait du sens. Et effectivement, tu parles de beaucoup à perdre. C'est exactement ça. Ça a l'air d'être un match piège pour l'Impact de Montréal. Il faut pas s'y tromper parce que DC a beau être dernier dans l'Est, faut regarder un peu plus attentivement leur saison. Ils n'ont que 4 victoires, oui. Mais 2 de ces 4 victoires sont intervenues depuis 2 semaines, soit depuis l'arrivée de Wayne Rooney. Donc ça ressemble à un momentum déjà. Mm-hmm. Ils ont joué moins de matchs que tout le monde parce qu'ils ont eu l'inauguration de leur nouveau stade très récemment. Et donc, la MLS a fait en sorte d'espacer un petit peu les matchs dans leur début de saison parce qu'ils jouaient tout le temps sur la route. Ça fait en sorte que entre aujourd'hui et la fin de la saison régulière, ils vont jouer 12 matchs à domicile. Là, il n'y a personne qui a cette chance-là dans la Ligue. Donc attention à DC United, ça peut être une carte cachée. Et une chose est sûre, eux, ils viennent ici, au Stade Saputo, pour gagner contre l'Impact de Montréal. Parce que ça va prendre ça à un moment donné, gagner contre des rivaux directs et les empêcher de s'envoler. Parce que si DC perd, c'est vraiment ce genre de match à 6 points, la 5e place qui appartient à l'Impact de Montréal, eh ben elle s'éloigne de plus en plus. Donc, il y a un véritable enjeu à la fois pour l'Impact et pour DC.
Et quand tu parles du calendrier, le DC United qui n'a joué que 18 matchs depuis le début de la saison, pour les raisons que tu viens d'expliquer, une seule équipe a joué moins de 20 matchs également, les Timbers de Portland. Écoutez, quand on regarde avec l'Impact, c'est 5 matchs de moins que l'Impact de Montréal. Donc, l'Impact, lui, qui est au plus fort, Vincent, de la course pour l'obtention d'une place en série, toujours campé au 5e rang, mais il y a quand même de la visite là. Il y a la Nouvelle-Angleterre, il y a Philadelphie également. J'imagine que les joueurs savent que ce soir, ça peut pas être un match piège, puis tu peux pas peser sur l'accélérateur seulement rendu à la deuxième mi-temps.
Oui, exactement. Tu peux pas prendre le premier but et te mettre dans une position de vulnérabilité face au DC United ce soir. Et tu sais, l'Impact a, dans une certaine mesure, été dans la situation inverse l'an dernier. Pas en étant aussi bas au classement, mais en étant dans la position de l'équipe qui avait des matchs en main sur tout le monde et dans la position de l'équipe que si tu gagnes ces matchs en main, eh ben, tu te places virtuellement au 4e ou au 5e rang. Ça, c'est bien dans l'idée, dans l'esprit. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'être dans la position dans laquelle est l'Impact présentement, soit celle d'être déjà à la 5e position. Mm-hmm. Parce que les autres, ils n'ont qu'une idée, une virtualité. Alors, je pense que ce qu'il faut actuellement, c'est s'accrocher à cette 5e place, à prendre tous les points qui sont possibles. Et ça passe par une victoire ce soir, parce que là, l'Impact sort d'une séquence difficile, avec beaucoup de matchs rapprochés, des adversaires relevés, Portland, Atlanta. Là, maintenant, on est en train, tranquillement, pas vite, de rentrer dans le dernier droit de la saison. Il reste 11 matchs à l'Impact de Montréal. Ça, aujourd'hui, ça doit être une rampe de lancement vers le dernier droit de la saison, un dernier droit conquérant. À l'inverse, s'il y a un mauvais résultat, là, ça peut être handicapant, voire plombant. Parce que perdre face à DC United, ensuite, la semaine prochaine, un déplacement plutôt difficile dans l'Utah. Voilà, on peut pas se permettre de laisser échapper des points, bien au contraire. Donc, c'est un vrai beau défi qu'on a ce soir face au DC de Wayne Rooney.
Oui, et il y a eu un calendrier extrêmement chargé en juillet. On s'est parlé au mois de juillet, Vincent. 7 matchs en 22 jours. Là, heureusement, Rémi Garde a eu le temps et aura à sa disposition des joueurs qui seront frais et dispo ce soir contre Wayne Rooney et le DC United.
Dans une certaine mesure, c'est vrai. Parce que, bon, on a eu le luxe qu'on n'avait pas eu précédemment dans les dernières semaines, voire dans le dernier mois, d'avoir une semaine pour préparer ce match. Mm-hmm. Et quand je dis préparer, c'est pas seulement porter de l'attention à l'équipe adverse, mais c'est aussi reposer les uns, soigner les autres. Bon, sauf que il y avait des petits bobos par-ci, il y avait Nacho Piatti qui était parti au match des étoiles, Safir Taider qui, on le sait, la semaine dernière, est sorti en cours de match parce qu'il était blessé aux adducteurs. Tout le monde n'était pas à 100%, donc ça a été quand même un certain défi de gestion, de ce que je comprends, cette semaine à l'entraînement. Ça ressemble finalement à une semaine internationale, ce qu'on appelle une semaine internationale où les joueurs sont convoqués pour rejoindre leur sélection et donc on s'entraîne avec une équipe pas amoindrie mais avec un effectif un peu plus léger. Donc je pense qu'on est là-dedans et n'oublie pas Yannick aussi que ça a été une semaine très agitée
oui.
au niveau du mercato, que ça prend de l'énergie, ça prend de la concentration pour le personnel, l'entraîneur plus que pour le vestiaire. Donc ça a été aussi un facteur de préparation.
OK, mais parlons, je voulais te garder ça pour la fin, mais toute cette histoire de Jimmy Briand, finalement, oui, on est en égo, oui, on annonce son arrivée, finalement, ça marche plus, puis oui, on reprend une discussion, puis le lendemain, c'est terminé. Tu sais, on parle des joueurs, mais ça va peut-être être bizarre comme question, mais dans quel état d'esprit va se présenter Rémy Garde, ce joueur?
Bah, c'est plus les joueurs qui sont sur le terrain, je t'avoue, qui jouent le match, qui m'intéressent quelque part.
Oui.
Est-ce que eux ont été déstabilisés par tout ça?
Penses-tu?
La réponse pour moi, elle est non. Quasiment non pour l'intégralité. Il y a certains joueurs, oui, qui ont été déstabilisés. On le sait. Entre autres, les attaquants. Matteo Mancosu en premier lieu. Lui qui, veut pas, c'était lui l'attaquant numéro un. En termes de temps de jeu cette saison, mais aussi en termes de statut. C'est lui le joueur TAM pour lequel on dépensait de l'argent d'allocation. C'est lui qui a le gros salaire. C'était censé être lui l'attaquant numéro un de l'effectif. Même si Jackson avait signé une prolongation, tu regardes le statut des deux, le salaire des deux, a priori, la hiérarchie, elle était assez nette. Fait que son temps de jeu aurait été directement affecté par l'arrivée d'un Jimmy Briand ou d'un autre attaquant, parce qu'il y a un autre attaquant du nom de Fanendo Adi qui aurait pu signer. Donc ça l'a embêté, c'est normal, comme ça embête beaucoup de joueurs en temps de mercato qui se voient menacés. Après, le vestiaire, et ça je le dis parce que je le sais, le vestiaire vit vraiment bien. Et c'est même un petit peu inquiété à un moment donné lorsque le président Joey Saputo est allé dire qu'il pourrait y avoir beaucoup de changements si jamais la tendance qui à l'époque était très négative se maintenait. Un peu inquiété que, tu sais, si t'amènes 3-4 joueurs dans un vestiaire, ça change un peu la dynamique. Quand on a un voire deux, eux, ils n'ont pas le choix que de suivre finalement le groupe qui est déjà installé. Mais quand on amène 3-4, le groupe doit lui aussi s'adapter au nouveau. Donc ça va clairement pas être le cas d'ici au 8 août. Je ne pense pas que l'équipe qui sera sur le terrain a été très affectée par l'affaire de Jimmy Briand. Quant au personnel d'entraîneur, et Rémy Garde en particulier, je pense qu'on est plus focusé, concentré sur le fait d'obtenir une victoire ce soir. Mais quand on sort de ce match et de la préparation de ce match, c'est sûr que le temps de mercato, parfois, laisse quelques traces.
OK, je souhaite, parce que j'écoutais les propos de Rémy Garde et je sentais qu'il le voulait vraiment. Et je sentais.
Oui, je te confirme.
Hein? Et je sentais que lorsqu'il a dit que c'était terminé définitivement, il y avait un certain. Je vais pousser le mot très fort. C'était presque un deuil qu'il devait faire parce qu'il le voyait avec le 11 Montréalais, Jimmy Briand.
Bien sûr. Bien sûr. Il a dit la semaine dernière qu'il comptait sur lui même pour jouer contre Atlanta.
Exact, exact.
Regarde, c'est aussi proche que ça, là. Il avait déjà fait des plans dans sa tête. C'est normal qu'il soit déçu. Dans une certaine mesure, les partisans le sont, et moi également, parce que je trouve que c'est effectivement un profil qui manquait à cette équipe, qui aurait pu la complémenter et faire en sorte qu'elle soit encore plus forte pour le dernier droit de la saison. Maintenant, Rémy Garde, il a fait tout ce qu'il a pu pour rabibocher un petit peu les parties. Il a joué son rôle de médiateur et il l'a plutôt bien fait, hein, parce que moi, je peux vous garantir que mardi matin, la porte, elle était fermée à l'arrivée de Jimmy Briand à l'Impact de Montréal. Garanti. Sauf qu'à un moment donné, à force de discussion, et parce que l'entraîneur le veut vraiment et que la direction est là pour aussi faire plaisir à l'entraîneur, ou en tout cas lui apporter les joueurs qu'il veut, la porte, elle s'était finalement un peu entrouverte. Et pour moi, le plus difficile, c'était de faire ça. Sauf que, au moment de se reparler, tout le monde se rend compte que la relation de confiance, elle était vraiment trop brisée pour être réparable. Et c'est aussi simple que ça, finalement. C'est que, on pourra redire ce qu'on veut sur cette affaire. Moi, je maintiens avec tout ce que je sais, et ça n'a rien à voir avec mon statut d'analyste du diffuseur officiel ou je ne sais quelle bêtise qu'on m'a reproché parfois. Le clan Briand, ça a mal géré ça, mais ultimement, c'est pas Briand qui a perdu. C'est l'impact. Parce que là, on va sortir probablement côté Impact de Montréal d'un mercato, d'une fenêtre des transferts avec pas d'attaquants, alors que ça avait été promis, qu'on ne s'est pas renforcé, qu'on avait eu du temps, a priori, pour développer des pistes A, B et C ou je ne sais quoi. ça ne semble pas être le cas. Donc, je pense qu'on va sortir avec un constat d'échec.
OK, si on revient au match en terminant, Vincent, si Saphir Taider, si Alejandro Silva, si Nacho Piatti continuent de jouer comme ils l'ont fait avant la pause, avant cette petite pause, je veux dire, ce soir, DC United, ça devrait bien fonctionner. Quoi qu'il va faire très chaud ce soir, ça peut jouer, ça, sur le rendement des joueurs?
Bien sûr que ça peut jouer, évidemment, les grosses chaleurs, avec l'effort qui a été fourni lors des dernières semaines. Et c'est évident qu'à un moment donné, sur la gestion du match et des efforts, tu as dit tantôt, et je suis d'accord avec toi, qu'on peut pas se permettre de laisser l'adversaire s'inscrire au pointage en premier. Donc ça veut dire qu'il faut bien sortir rapidement, prendre le contrôle, marquer. Est-ce que tu peux payer ces efforts-là en deuxième partie du match? Même à la fin de la première mi-temps, on a souvent vu l'impact de Montréal qui commençait à être un petit peu à court, à un petit peu relâcher la pression, puis encaisser le jeu de l'équipe adverse en fin de première mi-temps. Moi, je trouve que ça a souvent à voir avec un petit peu de fatigue dans cet été qui a été très chaud à l'Impact de Montréal. Après, sur la première partie de ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'avec Silva, Taider et Piatti sont aussi en forme ce soir qu'ils l'ont été, ça devrait aller, oui, mais il est là le piège. Il ne faut pas que mentalement, aucun de ces joueurs se dise ça. Parce que là, on installe un confort, pas une condescendance, mais limite. Il ne faut pas que eux croient, il ne faut pas que les partisans croient non plus que ce match, il est gagné avant d'être joué, parce que DC United vient pour gagner. Eux, ils ont faim. Alors, j'espère voir une équipe de l'Impact de Montréal qui sera au moins aussi affamée que DC United.
Vincent, merci beaucoup. Bon match ce soir au stade de Saputo. Et on se reparle demain aux Amateurs de Sport Weekend.
Avec grand plaisir.
Salut bon Vincent, bye-bye, bonne soirée, bon match. Évidemment, on vous le présente ici sur l'ensemble du réseau Cogeco avec Jérémy Filosa et Arcadio Marcuzzi également s'est présenté sur les ondes de TVA Sport. Vincent fait partie du groupe de description des matchs de l'Impact. On s'arrête pour la pause et on parle tennis au retour. Hélène Pelletier qui sera avec nous.